Chapitre 13 à 16. Le Nazaréat. Ces chapitres constituent une nouvelle division du livre des juges. Nous avons vu, du chapitre 3 au chapitre 12, une série de délivrances opérées par des instruments suscités de Dieu. C'est la période des réveils. La division qui va nous occuper a un caractère spécial. Israël retombe encore. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra en la main des Philistins pendant 40 ans. Chapitre 13, verset 1. Dieu ne nous donne aucun détail sur cette nouvelle décadence, mais nous reconnaissons ce qu'il en pense à la pesanteur de sa verge sur son peuple. Ce châtiment, ce sont les Philistins. Rien ne dépeint mieux l'état d'Israël que ce fait. Jusqu'ici, l'asservissement était venu soit des ennemis du dehors, soit de Jabin, chef des anciens possesseurs du pays, soit enfin des nations sorties d'Israël selon la chair et qui l'attaquaient sur ses confins. Ici, nous trouvons l'ennemi lui-même établi dans les limites d'Israël et le ravageant. Le Philistin domine sur le peuple et l'asservit. Nos jours ne diffèrent guère moralement de ce temps-là. L'infidélité de l'Église a produit depuis longtemps cette dernière manifestation du mal. Ce qui était autrefois hors de la maison de Dieu y domine. Les hommes décrits au chapitre 1er des Romains en sont devenus les habitants et impriment leur caractère au peuple de Dieu. Voir Romains 1 et 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Ce mélange est ce que l'on appelle la chrétienté. Or, en un temps pareil, quelle est la ressource du peuple de l'Éternel? Un mot répond à cette question. Le Nazaréat. Ce qui doit nous caractériser aujourd'hui, c'est une séparation entière et complète, une consécration réelle et générale pour Dieu. Avant d'aborder l'histoire de Samson, touchons ce point important. Sous la loi, tout étant extérieurement en ordre, le Nazaréat était temporaire. Nombre 6. En un temps de ruine, il devient perpétuel, à commencer par l'exemple que nous avons sous les yeux. Samson est un Nazaréen dès le ventre de sa mère. Ce caractère de perpétuité du Nazaréat se retrouve en Samuel, juge et prophète, 1 Samuel 1, verset 11, puis cesse avec David, type de la grâce royale, et Salomon, type de la gloire royale de Christ. Alors vient la ruine du peuple sous la royauté responsable de l'homme, comme on l'avait eu dans les juges sous le gouvernement plus direct de Dieu. Cette ruine du peuple et de la royauté consommée, Israël est livré entre les mains des gentils. Un résidu de Juda est restauré pour attendre le Messie. La maison est nettoyée, sans doute, mais le peuple est sans vie. Jean-Baptiste est suscité avec un Nazaréat permanent, Luc 1, verset 15, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit-Saint déjà dès le ventre de sa mère. Quand la ruine est pleinement manifestée, non encore consommée par le rejet de Christ, et que le jugement, mais aussi le Sauveur, est à la porte. Annoncé par Jean-Baptiste, Jésus paraît, lui, vrai Joseph, Nazaréen entre ses frères, mais sans les signes du Nazaréat terrestre, parce qu'il est lui-même la réalité de ce type. Cette qualité seule proclame hautement la ruine du peuple. À la fin de sa carrière, le Seigneur entre dans une seconde phase céleste de son Nazaréat. Il se sanctifie lui-même pour ses disciples, dans le ciel, vrai Nazaréen, séparé des pécheurs et assis à la droite de Dieu, laissant les siens ici-bas pour y représenter son Nazaréat. Le monde étant, par la croix, convaincu de péché, ruiné et jugé, les disciples, puis l'Église, deviennent des Nazaréens célestes à perpétuité au milieu du monde. Nous verrons, en parcourant l'histoire de Samson, comment l'Église elle-même a répondu à cette vocation. Il est une autre remarque importante. Ce qui, sous la loi, était l'apanage du petit nombre, est la portion de tous sous la grâce. La sacrificature, qui ne comprenait qu'une seule famille en opposition avec la tribu des Lévites, est devenue le privilège universel de tous les enfants de Dieu. 1 Pierre 2, versets 5 et 9. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Une classe moins nombreuse encore au milieu d'Israël, celle des Nazaréens, composée de quelques hommes ou femmes isolés, sans parler des Récabites, en Jérémie 35, au jour des prophètes, caractérise maintenant tous les fidèles. Nous en avons donné la raison, c'est que la séparation pour Dieu est nécessairement la marque des témoins en contact avec l'homme ruiné, avec le monde à la veille du jugement. Cette vérité du Nazaréat universel et permanent remplit le Nouveau Testament et resplendit à chaque page du Saint-Livre pour qui a des yeux pour voir. Elle est d'une immense importance pratique. Sous la loi, un Nazaréen, homme ou femme, se séparait pendant un temps déterminé pour le service de Dieu. Cette séparation consistait en trois choses, Nombre 6, versets 1 à 9, qui touchaient, en figure, aux éléments les plus nécessaires et les plus importants de la vie humaine. La première chose, en Nombre 6, versets 2 à 4. La sociabilité tient à la nature et à l'existence même de l'homme. Or, le Nazaréen devait s'abstenir de vin et de boissons fortes. Il est dit du vin, en Juges 9, verset 13, qu'il réjouit Dieu et les hommes. Cette joie des hommes sociables, ils auraient pu la partager en commun avec Dieu, mais le péché était entré par l'homme et Dieu ne pouvait plus se réjouir avec lui. Celui qui se consacrait au service de Dieu ne pouvait plus trouver sa joie dans la société de ses semblables, car Dieu n'a rien de commun avec la joie des pécheurs. Le serviteur du Seigneur ne peut chercher ses amis dans le monde, s'asseoir à leur banquet, partager leurs plaisirs, parce que Dieu n'y est pas. Plus la ruine éclate, et plus ce fait s'accentue. Les chrétiens manquent beaucoup en cela. Ils ont des amis mondains, cultivent leur société, non pour leur apporter l'Évangile, mais pour jouir de l'agrément qu'elle leur procure. Hélas, nous ne ressemblons guère à Paul quand il disait « Je ne connais personne selon la chair » 2 Corinthiens 5, verset 16. Sous ce rapport, comme sous tous les autres, le Seigneur était un Nazaréen parfait, étranger à toutes les joies de l'homme sociable. Il dit même à ses disciples, en cette rencontre qu'il avait ardemment désirée, lorsque, en face de la mort, il aurait pu goûter un instant de joie terrestre avec eux, « En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Marc 14, verset 25. Le jour viendra où le vin qui réjouit Dieu et les hommes sera bu nouveau dans une scène purifiée du péché, à laquelle le vrai serviteur pourra s'associer sans restriction. La parole de Dieu insiste sur l'importance de cette séparation. Il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson forte, et il ne boira d'aucune liqueur de raisin, et ne mangera point de raisin frais ou sec. Il ne mangera rien de ce qui est fait de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Nombre 6, versets 3 et 4. Observons-nous cela, mes frères. tout ce qui touche de près ou de loin à la joie du cœur de l'homme naturel nous est-il étranger? Comment réalisons-nous notre Nazaréat? Mais, direz-vous, où est la possibilité de le réaliser d'une manière aussi absolue? Cette possibilité, nous la trouvons dans notre caractère céleste. Nous avons un Nazaréat céleste. La séparation sous le judaïsme était une séparation matérielle. Sous le christianisme, elle devient spirituelle et céleste. Le Seigneur auquel nous appartenons est séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il a deux moyens pour nous séparer avec lui et comme lui. Le premier, la parole de Dieu, nous mettant en rapport avec le Père dans le ciel. Le second, sa propre personne à lui, un Christ sanctifié pour nous dans le ciel, afin de marquer et d'établir que nos relations, nos liens, nos affections sont désormais célestes, au milieu d'un monde jugé qui a rejeté Christ. Une seconde chose caractérisait le Nazaréen. Pendant tous les jours du vœu de son Nazaréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est séparé pour être à l'Éternel, il sera saint. Il laissera croître les boucles des cheveux de sa tête. Nombre 6, verset 5. À côté de la sociabilité, il est un second trait qui touche à l'essence même de l'être humain. L'homme est un être personnel, à volonté indépendante, et pour lequel rien ne saurait être plus important que le « moi », sa dignité et tout ce qui s'y rattache. Or, les cheveux longs séparent en figure le Nazaréen de tout cela. Ils sont à la fois le symbole de la dépendance et du déshonneur. 1 Corinthiens 11. La longue chevelure du Nazaréen annonçait ouvertement qu'il abandonnait sa dignité et ses droits personnels comme homme pour se vouer au service de Dieu. Ce qui, pour la femme, était une gloire, était une honte pour lui. Il abdiquait sa personnalité sous ce voile. Lui, né pour cette dignité, la négligeait. Lui, établi pour dominer, se soumettait à l'Éternel, comme la femme à son mari. Sans cette dépendance, ni service pour Dieu, ni puissance dans le service. Ce qui était pour le Nazaréen signe de faiblesse devenait la source de sa force. En outre, son dévouement pour le Seigneur se traduisait par l'oubli de soi-même qui le portait à se négliger pour accomplir pleinement son service. Une troisième chose le caractérisait encore. Pendant tous les jours de sa consécration à l'Éternel, il ne s'approchera d'aucune personne morte. Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur quand ils mourront, car le Nazaréat de son Dieu est sur sa tête. Nombre 6, versets 6 et 7. Le troisième caractère attaché à l'homme depuis la chute et inhérent à son être, c'est le péché prouvé par sa conséquence, la mort. Voilà ce que le Nazaréen devait éviter à tout prix. Les liens les plus forts, ceux de la famille, ne devaient pas entrer en ligne de compte quand il s'agissait de se sanctifier pour le service de Dieu. Combien nous comprenons peu cela. Ils sont nombreux, les chrétiens, qui disent « Permets-moi de m'en aller premièrement et d'ensevelir mon Père. » Matthieu 8, verset 21. D'autres disent « Je ne puis, mes parents me le défendraient. » Ceux-là ne sont pas des Nazaréens. Mais ce n'étaient pas seulement les liens de famille dont le Nazaréen ne devait tenir aucun compte quand il s'agissait du service et qu'il devait répudier selon l'exemple du Nazaréen parfait. Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Jean 2, verset 4. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Matthieu 12, verset 48. Le Nazaréen devait s'abstenir de tout péché, de toute souillure. Nous avons remarqué ailleurs, voir la génisse rousse, que la loi n'avait aucune ressource pour le péché volontaire, tandis que c'est à lui tout particulièrement que la grâce s'adresse. Un seul péché volontaire, l'abandon du christianisme, est hors des ressources de la grâce. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hormis le péché volontaire, la loi avait des ressources. Premièrement, dans la vie journalière de l'Israélite pour le péché par erreur et le délit. Lévitique 4 et 5. Deuxièmement, dans sa marche, pour le péché par manque de vigilance ou d'inadvertance. Nombre 19. Troisièmement, dans son service, pour le péché par négligence et pour le péché imprévu qu'il semblait impossible à l'homme d'éviter. Et si quelqu'un vient à mourir subitement auprès de lui, d'une manière imprévue, et qu'il ait rendu impur la tête de son Nazaréat, Nombre 6, verset 9. C'était un cas involontaire et impossible à prévoir, et cependant, c'était péché, d'autant plus qu'il s'agissait d'un service particulièrement important et honoré. Ce fait parle à nos consciences. Notre Nazaréat implique la séparation la plus absolue des souillures de ce monde. Nulle part dans ce chapitre, Dieu ne suppose que le Nazaréen puisse, de propos délibéré, boire du vin, tailler ses cheveux ou toucher un mort. Il en est de même pour nous. Dieu ne suppose pas que nous devions pécher, et il agit envers nous sur ce principe. Les trois marques du Nazaréat dont nous venons de parler n'étaient, malgré leur importance, on pourrait facilement l'oublier, que les caractères extérieurs de cette vocation. Ces marques étaient la conséquence d'un vœu, d'une consécration au service de l'Éternel, d'une séparation intérieure de l'âme pour lui. Si un homme ou une femme se consacre en faisant un vœu de Nazaréat pour se séparer afin d'être à l'Éternel, Nombre 6, verset 2. J'insiste sur ce point important. Un vœu était une décision de servir Dieu d'une certaine manière. Elle était sans restriction. On se dévouait ainsi au service de l'Éternel. Ce même dévouement à Dieu et à Christ est à la base du Nazaréat chrétien. S'il n'y est pas, nous nous exposons à quelque chute grave. On peut être Nazaréen d'une manière presque extérieure, posséder même, comme Samson, la grande puissance qui accompagne le Nazaréat, et n'être pas séparé dans son cœur. Sans doute ce côté purement extérieur sous la loi ne l'est plus sous le christianisme. On peut être aujourd'hui membre d'une société de tempérance sans être un Nazaréen. Ce qui correspond à ces signes extérieurs, c'est, pour le chrétien, un témoignage rendu devant le monde, nous séparant de ses souillures aussi bien que de ses joies, et nous faisant marcher ouvertement dans un chemin de dépendance qui prend la parole de Dieu pour règle. Or, nous pourrions professer ces choses, marcher extérieurement dans le chemin du Nazaréat et cependant avoir des cœurs partagés et non sanctifiés. Ce chemin aboutit à une défaite comme celle de Samson et, s'il n'y aboutit pas, nous y perdons en tout cas beaucoup des bénédictions qui découlent de l'entière consécration au service du Seigneur. Au chapitre 7 du Lévitique, la fête du sacrifice de prospérité durait 2 jours pour celui qui avait fait un vœu, 1 jour seulement quand il s'agissait d'une action de grâce pour des bénédictions reçues. L'influence du renoncement à tout ce que le monde pouvait offrir se montre aussi dans le culte d'Abraham, au chapitre 12 et 13 de la Genèse. Abraham y dresse 3 autels, celui de Sichem, l'autel de l'obéissance à l'Éternel qui lui était apparu, celui de Bethel, l'autel du voyageur au nom de l'Éternel, celui d'Hébron, l'autel du renoncement à l'Éternel lui-même, et c'est là que le patriarche réalise les bénédictions divines dans toute leur étendue. Revenons au Nazaréen. Il est intéressant de voir ce qu'il devait faire lorsqu'il avait rendu impure la tête de son Nazaréat. Nombre 6, versets 9 à 11. Un de ses actes correspondait à la perte de son Nazaréat extérieur, l'autre à la perte de son vœu, de sa consécration intérieure. Il devait se raser la tête. C'était la reconnaissance publique qu'il avait manquée, mais aussi l'aveu que la puissance de son nazaréat l'avait quitté. Le nazaréen repentant n'était pas comme Samson qui ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il le reconnaissait, proclamant, pour ainsi dire, qu'il n'était plus qualifié pour le service. Ensuite, il devait offrir deux tourterelles ou deux pigeonneaux, sacrifice de celui qui ne pouvait atteindre à un agneau. C'était reconnaître son incapacité, son néant comme serviteur, en même temps que la valeur du sang offert pour sa purification. Nous devons prendre note de ces choses, ne pas prendre extérieurement une attitude de force spirituelle quand nous avons perdu la communion avec le Seigneur, et confesser avec humiliation devant Dieu notre péché quand nous avons manqué au devoir de notre service. Continuons ce service sans lassitude, et ne le laissons interrompre par rien. Il venait un jour où le nazaréat cessait. Alors le nazaréen offrait tous les sacrifices. Ce jour luira pour nous aussi, quand le Seigneur viendra, et que son sacrifice aura porté ses suprêmes conséquences, le péché aboli, la mort anéantie, et Satan brisé pour toujours sous nos pieds. Alors nous raserons la tête de notre nazaréat. Nombre 6, verset 18. Alors la puissance du Saint-Esprit ne sera plus employée pour nous communiquer la force qui nous sépare de tout mal dans notre service. Alors nous mettrons les cheveux de la tête de notre nazaréat sur le feu qui est sous le sacrifice de prospérité, car notre force tout entière sera employée à la joie d'une communion sans mélange, et la scène du monde nouveau sera, comme nous-mêmes, parfaitement conforme aux pensées et au cœur de Dieu.